Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 avril 1987. Le Père lui donne et qu'il nous le communique.
manière d'œuvrer que le Père. Il œuvre comme le Père. Et donc, comme le Père fait connaître à son Fils bien-aimé tout ce qu'il porte en lui, le Père aime le Fils et lui montrera tout, et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore. Je crois que nous pouvons dire que Jésus fait la même chose pour nous, fait la même chose pour Jean. Vous avez ensuite le second moment. En vérité, verset 24. Je vous dis que celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et puis troisième, en vérité, je me demande toujours si on ne peut pas ponctuer ces en vérité, amen, amen, pour découvrir comme ce discours trinitaire. Parce que c'est un discours trinitaire. Tous les grands discours du Christ sont trinitaires. Jésus nous révèle sa relation avec le Père. Jésus se donne à nous. Et Jésus nous révèle, d'une façon alors encore, d'une façon très cachée, son lien avec l'Esprit Saint. En vérité, je vous le dis, qu'elle vient l'heure, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. De même, en effet, que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d'avoir la vie en lui. Il lui a donné pouvoir pour exercer le jugement, le discernement, parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, parce qu'elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ils sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, et ceux qui auront commis le mal pour une résurrection de condamnation. C'est tout le mystère du terme annoncé par Jean. Jean a reçu quand même une grâce très étonnante. Par le point de vue de l'Apocalypse, d'avoir ce sens eschatologique qu'il a sûrement plus qu'aucun autre. C'est l'évangéliste des fins dernières, et ceci c'est net dans le point de vue de l'Apocalypse. Et je crois qu'on peut dire qu'à partir de là, Jean est très sensibilisé à tout ce que représente ce point de vue ultime et dernier, et que lorsque nous le trouvons dans l'enseignement de Jésus, Jean l'a vécu avec une sensibilité très particulière. Et c'est peut-être une des grâces, voyez, que l'Esprit Saint nous demande d'avoir ce sens très fort du retour du Christ. Il ne s'agit pas de l'avoir d'une façon mauvaise. Alors, en disant, puisqu'il va bientôt revenir, ça n'a pas grande importance ce qu'on fait. Alors, ce qui favorise la paresse, ce serait très mauvais. Ça doit être l'inverse. Avoir le sens véritable du retour du Christ, c'est comprendre que nous n'avons pas de réserve à avoir. Que nous devons toujours tout donner dans notre effort de sainteté. Et c'est très vrai, si Jésus revient dans quelques années, hein, vous voyez bien, on saurait ça, on se dirait, allons-y à fond, à fond. Est-ce que c'est pas la peine d'avoir des réserves pour le ciel, hein? Et je crois que c'est très important, ça. Et c'est un des aspects très nets de la doctrine johannique, ça. Et c'est important de le souligner chaque fois que nous le découvrons dans un Jean. Parce que c'est sûrement quelque chose que Jean a vécu avec une très grande intensité. On comprend, si vous voulez. Cette génération ne passera pas avant mon retour, hein, avant que je revienne. les gens le dernier de cette génération. Donc, ça a dû poser un problème pour Jean. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à cause de ça, il y a eu l'apocalypse. C'est vrai, être le dernier d'une génération, on n'y pense pas assez à ça. Le dernier de cette génération, des apôtres, de ceux qui ont été enseignés directement par Jésus. Et de voir que tous ont disparu, et Jean reste le dernier. Alors, Jean devait se demander si avant de quitter cette terre, est-ce que Jésus reviendrait? Et l'Apocalypse l'a été donné pour cette attente, pour qu'il la vive. Jean est sûrement l'apôtre du Christ qui a vécu le plus du retour de Jésus et qui a eu la plus grande soif du retour du Christ. Ça, je crois, c'est une des notes particulières de sa sainteté. Oui, c'est peut-être ce que saint Thomas souligne en soulignant la jeunesse de Jean. Parce que je crois que attendre le retour du Christ, donc vivre de cette espérance eschatologique, maintient en nous un très grand désir. Et donc maintient en nous la jeunesse. La jeunesse divine. La jeunesse divine, c'est vivre du désir. Alors vous voyez ici, on voit très bien que Jean souligne quelque chose de particulièrement important. Parce qu'elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. C'est le bientôt de Dieu, ça. Et ils sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une récompense de vie, et ceux qui auront commis le mal pour une résurrection de condamnation. Donc, une lumière sur ce retour de Jésus. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement à moi est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça aussi, ça fait partie de façon très nette, si on vit de cette attitude d'une espérance eschatologique, je crois qu'on n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir la volonté du Père. Le reste, ça nous est bien égal. Je crois que c'est ça qui maintient la pauvreté spirituelle. Comment on puisse dire en toute vérité que ça nous est totalement indifférent d'être à droite ou à gauche? Pas politiquement, mais dans nos activités, ça nous est totalement indifférent. On ne cherche qu'une seule chose, c'est l'accomplissement de la volonté du Père. Mais ça, je crois que ça ne peut se vivre, mais se vivre vraiment, que si on a toujours cette attitude d'une espérance eschatologique, du retour du Christ, qui est bientôt. Donc l'imminence du retour du Christ, alors ça nous purifie radicalement. Parce que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui témoigne à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas vrai. Alors là aussi, pauvreté du cœur, pauvreté intérieure. Si c'est moi qui témoigne à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui témoigne à mon sujet. Et je sais qu'il est vrai, le témoignage qu'il rend à mon sujet. Vous avez envoyé, vous, des messagers à Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Alors, nous avons là aussi, ça fait partie de ces caractères très particuliers de l'évangile de Saint Jean. Le lien entre la vie divine et le témoignage. Je crois qu'il faut souligner tous ces caractères propres de la révélation johannique. Et notez-les, si vous en voyez que je ne nomme pas, vous me le direz. Parce que c'est important pour nous de nous faire une théologie exclusive, mais une théologie johannique, c'est-à-dire d'essayer de relever ce qui caractérise cette théologie de Saint-Jean. Eh bien, un des aspects qui me semble très très net, c'est parce que il a été le disciple de Jean-Baptiste. Il a connu Jean-Baptiste. Il a dû le connaître très bien. Donc il a connu le témoin et le témoignage de Jean-Baptiste. Et alors, cette chose très très forte dans Saint Jean, c'est de toujours montrer que notre vie chrétienne réclame un témoignage. On ne peut pas être chrétien sans être témoin. Oui, c'est le lien très mystérieux entre la vie contemplative et le témoignage. Parce que le témoignage, dans ce qu'il a de plus fort, de plus grand, c'est le témoignage de notre vie contemplative. Puis un témoignage autre que celui-là. Et c'est important ici de saisir toute cette théologie du témoignage. Et cette théologie du témoignage, elle est bien exprimée ici. C'est un autre qui témoigne à mon sujet. Et je sais qu'il est vrai le témoignage qu'il rend à mon sujet. Alors cet autre, c'est le Paraclet, c'est l'Esprit Saint. Cet autre, c'est aussi nous. Vous avez envoyé, vous, des messagers à Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là étant la lampe qui brûle et qui brille. Et vous, il vous a plu d'exulter un moment à sa lumière. Pour moi, j'ai le témoignage. Pour moi, j'ai le témoignage que j'ai. Il est plus grand. Cela se fait. Il est plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, celui-là, a témoigné à mon sujet. Alors voyez toute la théologie du témoignage qu'il a résumé, que Jean a saisi d'une façon très très forte. Alors pour nous c'est important, parce que si vous regardez dans Paul 6 l'exhortation apostolique, Paul 6 insiste énormément sur cette question du témoignage. Donc il faut que nous soyons très très attentifs à ça. L'Esprit Saint réclame de nous un témoignage. Alors il faut le faire d'une façon qui soit vraie. Et pour cela, ce qui est dit ici, ça nous donne une petite théologie du témoignage. Voyez comment Jésus lui-même nous montre cette nécessité du témoignage. Si c'est moi qui témoigne à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas vrai. Ceci reste toujours vrai. Quand c'est vous qui vous rendez témoignage, ce n'est pas vrai. Ça n'a aucun intérêt. C'est très très important. Vous savez, c'est une purification, ça. Ne jamais chercher à rendre témoignage de ce que nous faisons. Ça exige une très grande humilité et une très grande pauvreté. Si c'est moi qui témoigne à mon sujet, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre. Alors c'est toujours cela qu'il faut comprendre. Donc, on est très dépendant de cette volonté du Père. C'est un autre qui témoigne à mon sujet. Et je sais qu'il est vrai le témoignage qu'il rend à mon sujet. Alors, premier témoignage, Jean-Baptiste. Et Jean, l'évangéliste, est très lié. dit à Jean-Baptiste. Puis les œuvres. Parce que Jésus ne méprise pas le témoignage de Jean-Baptiste. Mais il montre que ce témoignage n'est pas l'unique témoignage. Il y a les œuvres.
Jean est très
très lié avec le législateur. Mais Jean est très lié avec le législateur, non pas du tout pour prendre la loi d'une façon univoque, d'une façon qui soit trop rigide, non. Il se sert de la loi pour aller le plus loin possible dans l'ordre de l'amour. Donc là, il y a un aspect doctrinal auquel Jean est très sensible. Et je crois que c'est lui qui est le plus sensible à cet aspect doctrinal parmi tous les évangélistes. Luc l'est, mais pas de la même façon. C'est dans Jean que vous voyez la plus grande doctrine du mystère de la très sainte Trinité. C'est le premier discours trinitaire qui est si fort et si beau. Il faut le reprendre souvent parce qu'il a une très, très grande profondeur. Et c'est important de comprendre que Jean nous le donne parce que ça nous fait comprendre tout de suite cet aspect doctrinal de Jean. Mais quand je dis doctrinal, je veux dire contemplatif. C'est-à-dire la vérité cherchée pour elle-même, la vérité aimée pour elle-même. C'est ça l'aspect contemplatif. Avec le chapitre 6, nous entrons dans ce que je crois pouvoir intituler le second moment de la vie apostolique de Jésus. Le second cycle de la vie apostolique de Jésus. Le premier, remarquez bien, parce que je crois qu'on peut le dire avec saint Jean, ce premier moment implique sept moments. Et tout l'évangile de Jean est ponctué par ce chiffre 7. Alors, ça aussi, ça monte la sensibilité de Jean. Et ça rejoint ce qui est dit dans l'Apocalypse. L'Église est mue par l'Esprit Saint. Mais avant l'Église, Jésus est mu par l'Esprit Saint. Et Jésus, à travers ses gestes et ses paroles, nous font comprendre le mystère de l'Esprit Saint. Alors, résumez bien ce premier moment de la vie apostolique de Jésus pour bien saisir tout ce qui est impliqué dedans comme richesse. Vous avez donc Cana, qui est le premier moment. Vous avez chassé Jérusalem ensuite et Nicodème. Donc ces trois premiers moments. Alors, cherchez en réfléchissant toujours pour mieux saisir l'aspect doctrinal de Jean. Comment Jean, qui ne nous donne pas dans l'Évangile les béatitudes évangéliques. Je crois qu'il les a communiquées à Luc. Et donc il ne le donne pas. Nous montre Jésus vivant des béatitudes évangéliques dans sa vie apostolique. C'est toujours comme ça. L'Évangile de Jean, c'est le plus personnel. C'est celui qui nous montre le mieux la personne de Jésus. C'est une doctrine vécue dans la personne du Christ, c'est pas du tout une doctrine en soi. Luc est plus point de vue intellectuel. Tandis que Jean sait, tout est vécu dans le Christ. Et donc, il est important de saisir à travers ces gestes de Jésus l'action de l'Esprit Saint en Jésus. Et à travers cette action, on découvre les béatitudes. Puisque les béatitudes ne sont pas autre chose que vivre de l'action de l'Esprit Saint. On ne peut être bien heureux que quand on est sous l'action de l'Esprit Saint. Alors il faut se poser la question. Je ne le dis pas, je vous laisse, parce que c'est important. Voir Cana, le temple à Jérusalem, purification du temple, et puis Nicodème. Voir quel est le don du Saint-Esprit le plus net, qui nous fait comprendre Cana, qui nous fait comprendre Jésus qui, en colère, chasse les vendeurs du temple. Jésus qui, en maître, enseigne Nicodème. Puis vous avez second moment. la Samaritaine. Une seconde main, il y a un petit intermède. Où Jésus n'est pas là, il n'y a que Jean-Baptiste. Un intermède très important, puisque Jean-Baptiste, qui nous a dévoilé le mystère de l'agneau, dévoile ici le mystère de l'époux. Donc, ici on peut dire que ce premier moment, ces trois premiers gestes de Jésus sont le mystère de l'agneau. Jean-Baptiste nous révèle le mystère de l'époux. Et le mystère de l'époux, c'est celui qui empêche d'être jaloux. C'est la jalousie de l'époux qui enlève toutes les autres jalousies. Et ça, Jean-Baptiste le manifeste d'une façon étonnante. Là, on saisit quelque chose de très important pour nous, parce qu'on sait très bien que la jalousie, c'est ce qui arrête les élans de notre cœur. Et alors, à partir de l'époux, l'éclatement, la Samaritaine, Cana, c'est la rencontre avec le Fils. Avec l'officier royal, la guérison de l'enfant. Et puis l'infirme à la piscine de Bethsaida. De nouveau trois. Et puis en dernier, lié, très, très lié au geste du Christ à la piscine de Bethsaida. Mais en même temps, le dépassant, ce geste, Jésus le fait le jour du sabbat. Donc le dépassement du sabbat. Voyez que nous trouvons dans ce premier moment, ce premier cycle. Donc, septièmement, ça c'est le discours du Christ, le discours trinitaire. Vous avez sept moments. Facile à ponctuer. Vous avez les sept moments d'Évangile, les sept actes de Jésus. Les trois premiers réservés à Israël. L'éclatement, le dépassement par rapport à Israël. Et puis, le regard de Jésus vers le Père, vers la très sainte Trinité. Et ceci, pour te faire comprendre comment le sabbat doit être vécu d'une nouvelle manière. Il doit être vécu dans l'adoration et la contemplation. Jésus brise, si vous voulez, une manière trop rituelle, trop légale de vivre le sabbat. Il fait exprès le miracle ce jour-là pour faire comprendre autre chose. Alors, ce grand discours contemplatif, c'est vrai, c'est un grand discours contemplatif, c'est un enseignement. Et en même temps, c'est Jésus qui éclaire. Vous avez donc ces sept premiers moments. Et essayez de découvrir vous-même. C'est facile. Et c'est bon. C'est merveilleux de voir les dons du Saint-Esprit à travers les gestes du Christ. Les gestes du Christ, c'est l'enseignement du Christ. Vous voyez le rythme. Le rythme est très très beau puisque vous avez un geste, un enseignement. Un geste, un enseignement, pardon. Un geste. Et puis, le discours, un enseignement. Trois grands enseignements du Christ. Et vous avez quatre gestes de Jésus. Alors, les dons du Saint-Esprit qui sont en vue de l'enseignement. Les dons du Saint-Enseignement vécu et les gestes. Il faut essayer de comprendre ça. C'est très beau. C'est une très belle, un très beau petit exercice au point de vue théologique. Découvrir à travers les gestes de Jésus qui nous sont montrés dans Saint Jean. Découvrir l'action de l'Esprit Saint. Jésus agit sous la mouvance de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est le premier cycle. Vous avez ensuite le second signe, c'est ce que nous allons voir maintenant tout de suite, en essayant de comprendre ce que Jean reçoit. C'est le second moment de la Via Pasoli, et je crois que ce second moment commence par un sommet de l'efficacité de la Via Pasoli de Jésus. Je crois que la multiplication des pains est faite au moment où Jésus a connu le plus grand succès. C'est pour ça que je crois que c'est au terme de la première année. C'est très difficile de préciser, mais je crois que c'est au terme de la première année. Au terme de la première année, c'est normal. Jésus fait des gestes miraculeux, des gestes d'amour. Il attire. Il y a une attraction prodigieuse vers Jésus. Et on le voit bien avec ce chapitre 6. Et au moment où Jésus connaît ce sommet, les premières brisures qui se font, on pourrait dire que la première brisure, elle est déjà ici, dans ce chapitre 5, que nous venons de voir, à cause du sabbat. C'est vrai, à cause du sabbat. Il fait un miracle le jour du sabbat. Donc, il ne peut pas être en conformité absolue avec ce que Dieu veut. Vous voyez, là, on découvre aussi très fort l'âme de Jean. Parce que ça se voit beaucoup plus dans l'évangile de Jean que dans les synoptiques. Jean est enraciné dans les traditions d'Israël. Et il montre tout de suite l'action de Jésus sur le temple et sur le sabbat. Le temple, c'est le lieu. Et le sabbat, c'est le temps. Il faut que les deux conditionnements humains de lieu et de temps soient consacrés à Dieu, soient religieusement consacrés. C'est un des très grands aspects de la vie religieuse. La vie religieuse s'inscrit dans le temps et les lieux pour que notre conditionnement soit totalement sanctifié. Et le conditionnement, c'est justement ce qu'il y a de plus concret dans notre vie. Et c'est par cela, c'est les deux grands axes, le temple et le sabbat. Et voyez la manière tout à fait différente dont Jésus purifie le temple et purifie l'usage du sabbat. C'est aussi très très glorieux ça. Il purifie la question du temple en renvoyant promener les changeurs et un geste de colère. On ne peut pas nier qu'il y a la colère de l'agneau. Colère de l'agneau. Alors c'est le don de force. Je crois. Parce que des saintes colères, et les saintes colères sont sous la mouvance de l'Esprit Saint et du don de force. Tandis que lorsqu'il s'agit du sabbat, c'est pas du tout un geste de colère. C'est un geste de miséricorde. C'est la miséricorde qui fait dépasser l'aspect un peu rituel, un peu formel du sabbat. Tandis que la purification du temple, c'est une épreuve de force. Jésus ne peut pas tolérer qu'on fasse de la maison de Dieu une maison de commerce. C'est un manque de distinction entre le profane et le sacré. C'est très important, parce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus accepter la distinction du profane et du sacré. Ça m'a encore été dit l'autre jour. Or, la distinction du sacré et du profane est une distinction fondamentale au point de vue religieux. Et c'est cette confusion. Faire du temple, le lieu de prière, une maison de commerce. Il n'y a rien de plus profane que le commerce. Le temple, c'est majesté souveraine du père ne soit pas respectée. Ça le blesse. Chaque fois qu'on se met en colère, c'est parce que notre cœur est blessé. Alors on réagit violemment. Et le cœur du Christ est blessé parce qu'on ne respecte pas suffisamment la majesté du père. Quand on n'adore pas suffisamment, on blesse le cœur de Jésus. Et quand on entre dans le cœur comme si on entrait au réfectoire, ça blesse le cœur du Christ. Et c'est vrai ça. Et quand on regarde pas tellement ici, vous respectez le lieu, mais quand on regarde actuellement dans certaines églises, les gens ont pris l'habitude de parler dans les églises comme si c'était à l'agora. Et je suis persuadé que ça blesse le cœur de Jésus. Parce que c'est un manque de respect. Le temple, l'église est un lieu d'adoration. Et quand on adore, on se tait. On est tout en détourné vers Dieu. C'est très très important de comprendre la vulnérabilité du cœur de Jésus, de l'agneau. Et le mystère de l'époux. Alors réfléchissez bien sur ces trois moments de la miséricorde de l'agneau et ces trois moments de l'amour de l'époux. L'éclatement de l'amour face à trois situations limites. Oui, c'est là où je saisis combien Jean un sens doctrinal si poussé. Il a saisi la manière dont Jésus était sous la mouvance de l'Esprit Saint et qu'il faisait tout selon un ordre de sagesse. Il faut découvrir ça. Chapitre 6, donc, c'est un chapitre extrêmement riche. Nous allons entrer dans les grandes luttes. Ici, le premier cycle, le premier moment de la vie apostolique de Jésus, c'est la joie qui domine. Et tout est ordonné dans la joie. Tandis qu'avec les luttes, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus aucun ordre. Et ça va donc du chapitre 6 au chapitre 12. Vous avez toutes les grandes luttes. Et toutes ces grandes luttes vont nous faire comprendre comment Jésus réalise sa vie apostolique dans une très grande force. Parce que la lutte est intestine. C'est avec ce chapitre 6 que nous voyons la première fois des disciples se séparer de Jésus. Et c'est aussi la première fois où on voit Jésus porter un jugement si sévère sur un des 12. Au milieu de vous, il y a un démon. Et Jésus ne l'a pas chassé. Jésus aurait dû chasser. C'est une imprudence complète de la part de Jésus. Si Judas était parti à ce moment-là, Judas ne l'aurait pas trahi. Comme c'est curieux, hein. Et tout ça, Jésus le fait pour nous apprendre à vivre divinement. C'est trop facile de mettre à la porte certains. Judas a été choisi par Jésus. Si Jésus n'était pas fils de Dieu, on dirait qu'il a commis une imprudence énorme. Qu'il a manqué de discernement, c'est si vite dit. Hein. Il a manqué de discernement, il aurait pu quand même avoir un discernement un peu plus poussé. Est-ce que c'est le discernement qui fait choisir? Le discernement est nécessaire pour le choix. Mais l'ultime lumière du choix, c'est pas le discernement, c'est pas la le chien. On pourrait dire que ce chapitre 6, qui est le grand chapitre du pain de vie, nous fait comprendre le lien de Jean et de l'Eucharistie. Voyez, quels sont les sommets de la doctrine johannique? C'est ça qu'on doit chercher. Quels sont les sommets de la doctrine johannique? Eh bien, nous avons découvert ici ce discours contemplatif qui montre que le Père est toujours à l'œuvre. Et ceci justifie le miracle jour du sabbat. C'est le mystère de la très sainte Trinité, du Père et du Fils, qui éclaire le travail du Père.
L'insouciance. On a
rien prévu du tout. Jésus a l'air de ne pas y penser du tout. Tandis que Philippe et André commencent à y penser. Quand Jésus pose enfin la question, il soulage tout le monde. Comment achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? C'est Jésus qui dit ça à Philippe. Parce que Jésus sait très bien que Philippe est en état de tentation. Dans sa prudence, c'est de la folie ce que fait Jésus. Enfin, Jésus se réveille. Dans sa prudence, il pense qu'il faut quand même manger. Comment achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il dit cela pour le mettre à l'épreuve. Il le met à l'épreuve parce que Philippe commence à murmurer. C'est toujours comme ça. Quand on commence à murmurer, Jésus est là. Il nous regarde du coin de l'œil. Et puis là, il pose une bonne question. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit peu. Un petit peu. Il répond spontanément ça. Ça prouve qu'il y a pensé. Il a regardé cette foule. Il a dû se dire, mais quoi? On n'a rien comme argent. Et donc 200 deniers, donc le denier représentant le salaire d'une journée de travail. Alors faites le calcul. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 menus poissons. Et il les avait bien regardés. Mais qu'est-ce que ça pourtant? C'est admirable ça. La tentation d'André, c'était de mettre la main dans la sacoche du gosse qui avait ça. Oui, ça c'est la tentation des apôtres. Hein, ils sont tellement habitués avec Jésus, c'est qu'ils ne sont plus en état d'étonnement avec Jésus. Tandis que le gosse, lui, si vous devenez comme des tout petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. On a un exemple de gosse. Le gosse, il oublie de manger. On pourrait faire ça de temps en temps comme exercice, hein, ce serait assez curieux. Alors tous ceux qui oublient de manger, ah, ceux-là, ils sont bons pour le royaume de Dieu. Ils sont comme des enfants. On leur raconte des histoires extraordinaires, merveilleuses. Un gosse, il suffit de raconter des histoires. Il ne pense plus à manger. Il y a un transfert. Les grandes personnes, c'est très difficile de faire des transferts de cet ordre-là. Et un jour, le repas est un peu en retard parce que, je sais pas, le cuisinier a oublié de chauffer les légumes. Ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, il y a un peu de retard. Tout le monde est frappé. Sont arrivés. moi qui lorgnais sur ces petites provisions de ce gosse qui, lui, on lui racontait des histoires sur Jésus. C'était tellement admirable, l'histoire sur Jésus. Donc on n'a plus besoin de manger. Tandis que là, c'est net, hein, c'est dit admirablement, du reste. Jean ne veut pas accabler André et Philippe. Mais s'il montre quand même qu'ils sont quand même dans un état de tentation. Alors, Jésus est très direct. Faites s'étendre les gens. Alors, souligne pourquoi il y avait de l'herbe. C'était l'époque. Les hommes s'étendirent donc au nombre d'environ 5000. Jésus prit donc les pains du petit gosse. Servir.